Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Raquel que je reçois dans ce nouvel épisode. Raquel est brésilienne, elle est arrivée en France il y a 17 ans par amour. Elle a suivi un Français qu'elle avait rencontré chez elle au Brésil, avec qui elle vivait une histoire d'amour assez idyllique avant qu'elle ne se transforme une fois arrivée en France. Elle raconte comment elle a perdu sa joie de vivre et sa confiance en elle à cause de cet homme qui l'a rabaissée alors qu'elle avait tout à apprendre, de la difficulté de se détacher de lui et de son emprise. Elle raconte comment elle a appris à s'aimer pour s'en sortir, elle parle de son cocon familial très protecteur au Brésil, de l'importance du mariage pour elle, de sa rencontre avec son mari avec qui elle partage sa vie depuis maintenant 14 ans, de sa relation avec ses deux enfants et comment elle prend soin de son couple aujourd'hui. Merci beaucoup à Raquel et sa joie de vivre pour son témoignage et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes d'amour. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail, toutes les informations sont dans la description. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Alors, Raquel, est-ce que t'es prête? T'es stressée?
C'est stressant.
C'est vrai?
Je pensais pas, je pensais que ça allait...
Non, t'inquiète, parce que tu vas vite oublier le micro.
D'accord.
Alors, faut juste que tu parles quand même proche du micro.
Voilà, c'est ça.
Donc, attends. Mets-toi bien.
Ok, voilà. Je vais compter jusqu'à 100.
Ah, on va attendre un petit moment.
Non, ça va, je compte vite. Non, c'est bon.
Tu me dis si tu veux qu'on attende un petit peu, on attend.
Non, ça va.
Ça va?
Oui, ça va.
Bien. T'inquiète pas.
On peut corriger.
Je le mets bien vers toi. Oui, je peux corriger. Alors, je suis avec Raquel aujourd'hui. Salut Raquel.
Salut Léa, salut tout le monde.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Tu me disais que tu étais un peu stressée.
Oui, je pense que je suis stressée parce que je n'ai jamais parlé comme ça.
Tu n'as jamais parlé dans un micro de ce sujet de l'amour? Qu'est-ce qui
d'un micro. Du sujet de l'amour, j'ai l'habitude parce que depuis que je suis en France, donc depuis que j'ai eu mon ex, j'arrête pas de faire des séances de psy.
Ok.
En fait, j'ai fait par intermittence. J'ai fait un an de psy, après je fais une pause, je fais trois ans, après je reviens, je vois un autre psy. J'aime bien.
tu me disais que depuis que tu étais en France, donc grâce à ton ex, c'est ça?
Oui, t'es arrivée en France, oui.
Parce que lui était français, toi tu viens du Brésil.
Il était français, on s'est rencontrés au Brésil, on est sortis ensemble un an au Brésil.
Ok.
Et il voulait que je vienne en France.
D'accord.
À l'époque, on parlait de mariage. Parenthèse, je suis d'une famille catho, donc je suis très catho.
Ouais.
Et lui aussi. Donc, on parlait de mariage très vite. Et donc, il voulait que je vienne en France rencontrer sa famille.
OK.
Mais moi, je ne voulais pas venir en France dépendante de sa famille,
oui,
ni rester chez lui.
Toi, tu avais un lien avec la France déjà ou pas du tout?
Non, pas du tout.
OK.
Pas du tout. Je ne parlais même pas la langue, rien.
Et c'était
rien
à combien de
tout.
Temps ça? Parce que tu parles super bien.
C'était en 2004.
OK, d'accord.
On s'est rencontrés en 2003.
Ouais, OK.
Mi-2003. Non, même 2002.
Il y a 20 ans, presque.
Oui, ça fait trop longtemps. Je suis vieille.
Mais non.
Et en fait, on s'est rencontrés dans l'université. Il faisait un Erasmus là-bas.
OK.
On a commencé à sortir ensemble. C'était un coup de foudre. Et il était merveilleux au Brésil.
Ouais.
C'était vraiment un prince charmant. À t'envoyer des bouquets de fleurs au travail.
OK.
C'était un truc. Et donc, il voulait que je vienne en France rencontrer sa famille. Et j'ai dit que je ne voulais pas être dépendante de lui, que je voulais garder le même système que j'avais au Brésil. Donc, avoir ma maison, mon travail, ma vie, et continuer de sortir avec lui, voir ses amis, voilà, sa vie.
Okay.
Donc, on a trouvé le système de jeune fille au père. Et c'est bien pour apprendre le français, parce que quand tu parles avec des enfants, ils sont hyper cash.
Ouais.
Donc,
ouais, c'est vrai.
Tu ne parles pas bien, je ne prends pas ma douche.
Ouais.
Tu ne parles pas bien, je ne fais pas mes devoirs.
OK.
Donc, à force, en trois mois, tu parles hyper bien.
Ouais.
Si tu veux qu'il y ait un peu d'ordre. Et donc, je suis venue en France. Et quand je suis arrivée en France, j'étais hyper bien accueillie par sa famille. Il y avait une famille nombreuse. Ils étaient sept. Ils sont sept. Et sa mère était comme une mère pour moi, elle est toujours, même si on n'a plus de contact, mais je l'adore, elle a fait énormément de choses pour moi.
Ouais.
Mais lui, il a changé. Quand je suis arrivée en France, je ne sais pas, moi j'ai changé parce que je n'avais plus de base.
Oui, tu n'avais plus tes repères.
J'avais plus de repères, donc c'était lui mes repères, parce que c'était la seule personne qui parlait portugais.
Ouais.
Et... une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « on parle peu portugais ». Donc, je ne pouvais plus parler portugais avec lui. Donc, il fallait que je parle en français.
Ouais.
Et moi, exprimer mes sentiments, mes besoins, mes choses, c'était pas encore ça en français.
Bah oui, tu m'étonnes.
Donc, c'était hyper compliqué. Et il s'est commencé à s'installer. Il avait le pouvoir et ouais. Je pense que j'ai vraiment connu qui il était. Parce que je pense qu'au Brésil, c'était un peu vacances, Erasmus, oui. Faire la fête, je profite de la vie. En plus, à l'époque, les reais, la monnaie brésilienne par rapport à l'euro, c'était 6 par an.
Okay.
Donc lui, même avec une aide financière, il était le roi du pétrole là-bas.
Ouais, ouais.
Donc, il a beaucoup profité. Mais quand il est arrivé en France, c'est la grisaille, c'est sa vie. Donc, il a repris ouais. sa vie. Et il n'arrivait pas à me caser dans... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il m'a montré un visage qui a duré 4 ans. Horrible. Parce qu'en fait, il minait ma confiance en moi.
OK.
Parce que je viens au Brésil, on ouais. parle beaucoup de l'esthétique, le corps des filles, comment elles sont, qu'il faut qu'elles soient belles, comme ça, qu'il y a beaucoup de chirurgie esthétique.
Ouais.
Mais moi, je viens d'une famille qui, mes parents, je ne dis pas mes tantes, mes cousines, mes cousins, rien, mais mes parents, ils n'ont jamais fait des réflexions sur mon physique, de personne.
Ouais.
Ils sont toujours dans les qualités. Toujours, t'es merveilleuse, t'es magnifique, t'es la chose la plus précieuse au monde. C'est un truc. J'ai dit, ma mère, elle est dégoulinante d'amour. Et donc, je n'étais pas prête. Comment dire, il y avait un peu d'harcèlement à l'école quand j'étais jeune. J'avais 17 ans parce que j'étais très grande et très mince.
Okay.
J'étais une table à repasser. Et donc, à l'école, les gens se moquaient un peu de moi parce que j'avais pas des formes. Mais ça m'atteignait pas.
Ouais.
Parce qu'à la maison, mon père, par exemple, il me disait « Mais c'est pas grave si les gens disent ça. L'important, c'est ce qu'il t'a comme connaissance,
ouais.
comme savoir. Parce que ça, c'est une chose qui ne se détériorera jamais.
Ouais.
Tu garderas pour toujours. » Alors que le physique, ça change. Tu peux grossir, maigrir, faire plein de changements. Alors que ta tête, tu fais qu'évoluer.
Donc, tu veux dire que tu as grandi dans une base très saine de la part de tes parents, de la part de ta famille, de ton environnement là-bas au Brésil, et tu es arrivée à Paris donc il y a 20 ans.
Oui, ça. Non, à 15 ans. Je suis arrivée en 2005.
Tu es arrivée en 2005.
Ah, dans 17 ans.
Il y a 17 ans.
Ouais.
Ok, putain, je ne sais plus compter, c'est chaud.
Oui. Je comprends. Okay. Moi, il y a des moments où j'arrête.
Ok. Donc, tu avais quel âge à l'époque déjà? On va resituer un peu.
J'avais 21 ans.
Et t'étais en fin d'études?
Oui, j'étais en deuxième année d'administration en commerce international.
Ouais.
Et quand je suis venue être jeune fille au pair, j'ai fait un an de jeune fille au pair et je suis rentrée au Brésil. Normalement, c'était définitif.
OK.
Et en plus, avant que je rentre au Brésil, il avait cassé avec moi. Parce que toute l'année où j'étais jeune fille au pair, il faisait que ça. Il cassait avec moi, on se remettait ensemble. Il cassait avec moi, on se remettait ensemble.
Okay.
Et à chaque fois qu'il cassait avec moi, il donnait des excuses. Une fois, il m'a dit, on ne peut pas rester ensemble parce que tu as des petits seins. Et moi, je ne peux pas, tu sais, les garçons, on est très physiques. Et quand je vois tes petits seins, je ne peux pas.
Ah oui,
je ne peux pas rester avec toi.
Donc, vous cassiez, vous remettiez ensemble. Toi, tu étais dans quel environnement à ce moment-là? Parce que tu étais jeune fille au pair, mais est-ce que tu avais réussi à te créer un cercle à Paris? Enfin, à Paris, d'ailleurs, je ne sais pas.
J'étais
si
à Versailles.
À Versailles, ok.
Ouais. En fait, j'ai eu ma première famille au pair. Oh, ça ne s'est pas bien passé.
Ouais.
Ça s'est un peu mal passé parce qu'on avait un problème de communication.
Oui.
Et la femme, elle était très colérique, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'elle disait. Je ne comprenais
oui.
pas bien qu'est-ce qu'elle disait. Donc, tout était une agression pour moi, parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'elle voulait.
Ouais, ça doit être hyper dur.
C'était horrible.
Ouais.
Mais ça, la mère de mon ex, elle m'a aidée à changer de famille. Elle a
okay.
trouvé une autre famille. Et ma deuxième famille au pair, là, c'était un bonheur.
Trop bien.
La femme, elle était merveilleuse. Les enfants adorables. Je suis tombée amoureuse des 7 enfants. Il y en avait 7.
7 enfants.
Ah oui.
Ah, t'avais du taf, quoi.
Ah oui.
Énorme.
Mais
okay.
C'était trop bien.
Ouais.
Parce que 7, après, à un moment, c'est autogérable.
Ok, ouais. Tu mets le grand.
Voilà, ouais. Je mets le grand. Quand je faisais de babysitting, je faisais avec le grand de 13 ans.
Ouais, ok.
Donc, on regardait Kaamelott ensemble.
Okay.
Pendant qu'on couchait les petits. Lui, il lisait les histoires pour la moitié des enfants. Moi, je lisais pour l'autre moitié. C'était formidable, j'étais dans mon élément.
Trop bien.
Et j'étais hyper contente, j'étais bien accueillie. Les amis que j'avais, c'était ses amis à lui.
Ouais.
Et il y avait toujours ce problème de langue. Parce que je parlais anglais, mais je n'arrivais pas à comprendre l'anglais que ses copains parlaient.
Ok. Tu veux dire l'anglais de nous, les Français, avec notre accent merdique.
Désolée.
Ah bah, t'as bien raison.
Hein. Mais maintenant, j'ai l'accent merdique quand je parle anglais.
Ok, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais ok.
Je suis triste, parce que maintenant, mon fils de 9 ans parle anglais avec le bon accent.
Ouais.
Et du coup, ça m'attriste un peu. Donc, il faut que je reprenne l'anglais d'avant. Et donc, j'ai créé des liens. Et j'avais aussi le groupe de copines jeunes filles au père. Des Russes, des Canadiennes, des Allemandes. C'était un peu partout, des Espagnols. C'était un peu de toute nationalité. Et on faisait beaucoup la fête ensemble.
Ouais.
C'était hyper bien.
Okay.
Sauf qu'il y avait lui. Donc lui, j'avais l'impression que quand j'étais heureuse, ça le dérangeait.
Ouais.
Ça ne le faisait pas plaisir. Et par exemple, des fois, on donnait rendez-vous, on se voyait. Et il passait tout le rendez-vous à me rabaisser, à me dire des choses sur le physique. Parce qu'il ne pouvait pas dire grand-chose. La seule chose qu'il pouvait dire sur moi, c'est que je ne parlais pas bien français.
Ouais.
Mais il parlait beaucoup de mon physique.
Okay.
Au début, ça ne me faisait pas grand-chose. Parce que comme j'avais une base solide, ça m'atteignait, ça me blessait. Mais je lui disais, mais si t'es pas content, va voir ailleurs.
Mm.
On n'est pas obligé d'être ensemble, on n'est pas mariés, on est juste copains-copines. Si t'es pas content, mais pars. Donc on cassait. Après, on faisait des soirées, comme on avait les mêmes copains, et me voyait. Et si un copain à lui venait me draguer, ah là, non, ça pouvait pas.
Mm.
Et c'était toujours ces jeux de chat et souris.
Et ça a duré 4 ans?
Oui.
Qu'est-ce qui a fait, tu penses que tu es restée 4 ans quand même avec lui, même s'il y a eu séparation, etc.
En fait, il était mon premier.
Ouais.
Et comme il était mon premier, le côté cato, c'était tu te maries avec ton premier.
Ouais. Ton premier amour et ton premier au niveau de sexualité.
Voilà,
etc.
Ton premier.
Premier tout.
Premier tout.
Ouais.
Il n'était pas mon premier amour. J'ai eu un amour avant.
Okay.
Mais ça. Pardon. Ça n'a pas été jusqu'au sexe.
Ok.
Lui, il a eu ça. Et donc, j'avais cette responsabilité, on va dire.
D'accord.
Et j'avais aussi le souvenir de la première année au Brésil.
Oui.
Et je cherchais toujours
à revenir ce gars-là. À ce moment-là.
Ouais. Ouais. Je me disais, mais il est où, celui que j'ai rencontré? Il doit être quelque part.
Et tu voyais cet aspect de lui de temps en temps? Ou là, c'était que c'était plutôt sombre, finalement, quand tu étais en France? Ou tu retrouvais un peu des aspects que tu aimais de lui, du Brésil?
J'ai trouvé des aspects, mais quand on n'était que tous les deux.
Ok, il y avait une différence quand il y avait des gens?
Oui, quand il y avait des gens, et il mettait une distance. C'est presque comme il avait honte de moi. Hein? Alors que j'étais amie et sociable avec tout le monde.
Oui.
Et tout le monde était hyper gentil avec moi. Après, il y a un ami à lui qui, une fois, est allé lui s'y plaindre en lui disant « Ouais, mais ta copine, là, elle n'arrête pas de me draguer. » Et lui, il a dit « Attends, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et il lui a expliqué. Il a dit « Mais non, c'est juste qu'elle est brésilienne. C'est que tu prends pour de la drague. Elle le fait avec tout le monde.
Ouais. »
Et j'ai eu beaucoup de problèmes en France avec ça, parce que j'ai une façon assez amicale, je suis.
Ouais.
Je fais facilement de câlins, des bisous, j'aime bien taquiner les garçons. Et les garçons prennent ça pour la drague.
Okay.
Mais en fait, moi, quand je drague, j'ignore.
Truc, rien à voir, quoi.
Voilà, je fais comme si la personne n'était pas là, alors que je suis à fond.
Au moins, si on sait cette info de toi, on le voit tout de suite.
Ah, tout de suite. Et donc, je suis rentrée au Brésil, je ne devais pas revenir. Donc, je passais 3 mois au Brésil. Les 3 mois, ils m'appelaient tous les jours.
Ok.
Rentre. T'as été acceptée à l'université parce que j'ai essayé de faire un Erasmus, mais j'ai pas réussi. Donc il fallait que je reprenne mes études en France dès le début.
D'accord.
Donc il arrêtait pas de m'appeler. Viens, viens. Ça va être différent entre nous. J'ai compris qui je t'aime. T'es la femme de ma vie. Blablabla, blablabla. Le même discours.
Ouais. Est-ce que toi t'attendais une demande en mariage peut-être?
Oui.
Un engagement? Ouais, ouais.
Ah oui.
Okay. Et vous en parliez?
Oui, on parlait. Mais à chaque fois qu'on parlait, il avait ses excuses bidons. Donc je peux pas me marier avec une femme qui a des gros seins. Je ne peux pas me marier parce que tu as pris 10 kilos.
Ah ouais, des critères physiques, quoi.
Ah oui, complètement. Et en fait...
Mais comment, tu vois, tu arrivais à ne pas le prendre pour toi? Enfin, à ne pas le
prendre. Ah non, j'ai pris... En fait, au bout d'un moment, la première année, non, parce que j'avais tout mon entourage et j'avais toujours l'ancrage de « je vais rentrer au Brésil ».
Ouais.
Mais quand je suis venue après la première année, et là, je suis venue pour passer 3 ans pour faire ma licence...
Ouais.
J'avais plus mes copines jeunes filles au père parce qu'elles étaient toutes rentrées chez elles. Et là, ça a été compliqué. Parce que là, j'avais que lui et ses amis à lui. J'ai commencé ma vie d'étudiante qui était très difficile.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à perdre pied. Et là, ça a commencé à m'attendre. Et j'ai perdu la joie de vivre.
Ouais.
Là, j'étais en con. C'est comme si on m'avait éteint.
Est-ce que tu arrivais à en parler? Les gens le remarquaient autour de toi, ta famille au Brésil, ou c'était vraiment, tu le gardais vraiment pour toi?
J'ai gardé vraiment pour moi. Il y avait juste un monsieur qui m'a beaucoup aidée à cette période-là, parce que quand j'étais étudiante, j'ai travaillé à Hippopotamus le week-end, ouais, et je faisais des ménages chez les gens.
D'accord.
Pour avoir un peu d'argent.
Ouais.
Donc, il y avait plusieurs familles que je faisais le ménage chez eux, et je faisais des babysitting aussi. Il y a un monsieur qui était un peu psychologue.
Ok. Un peu psychologue, c'est-à-dire c'était pas vraiment son
c'était
métier.
C'était pas son métier.
Okay. Mais il prenait le temps de...
Voilà. Et donc, quand je faisais le ménage chez lui, il prenait le temps de discuter avec moi.
D'accord.
Et il voyait que des fois, il disait un mot et je pleurais.
Ok.
Donc, il grattait.
Mmh.
Et en fait, les séances de ménage devenaient mes séances de psy. Parce que j'allais nettoyer chez lui. Et en fait, j'ai fait une séance de psy.
Okay.
Et j'en parlais. Et il m'a même donné un livre qui c'est... Les mots, ça, ce sont des murs. Ou sinon, ce sont des fenêtres.
Okay.
C'est sur la communication non violente. Pour essayer que je parle avec mon ex. Voilà. Et j'ai essayé de changer, d'évoluer. Mais physiquement, je ne pouvais pas changer.
Oui.
Je peux apprendre à communiquer et tout. Mais moi, la chirurgie esthétique, ce n'était pas... Il y a des moments où je me suis posé des questions quand j'étais avec lui. De me dire, allez, je rentre au Brésil, je mets des boobs énormes, je fais mon nez, je fais une lipo et je reviens. Mais après, je me dis, ça me ferait trop bizarre d'avoir un corps étrange dans moi. Et après, petit à petit, mais ça me faisait beaucoup souffrir, mais je n'arrivais pas à me détacher.
Ouais.
Et en fait, c'est en 2008, j'ai rencontré Dodo. Donc, c'était la fin d'année 2007 vers 2008. On est parti un week-end, une semaine à Thésée.
C'est où Thésée?
C'est une communauté religieuse qu'il y a en France et qui fait des rencontres toutes les fins d'année. Et cette année-là, c'était en Suisse.
OK.
Donc, son cousin nous avait proposé de faire Thésée et après, une semaine au ski.
Okay.
Et il avait ouvert l'invitation à plein de monde. Et mon déclic, c'était, on a fait Thésée. Quand on était à Thésée, j'ai prié et j'ai dit, Dieu, j'en peux plus de cette vie.
Ouais.
Donne-moi un signe. Si c'est lui l'homme de ma vie, ou s'il faut que ça s'arrête. Parce que j'en peux plus, je deviens folle. Parce que vraiment, il jouait avec mon état d'esprit. Et j'arrivais plus, mentalement, j'arrivais plus. Et quand on est parti au ski, donc on était dans un chalet, et je me suis brisé le genou, mais pas brisé, j'ai fait une petite entorse au genou. Donc tout le monde partait au ski, et moi je restais à la maison. Donc juste la mort, parce qu'il n'y a rien à faire.
Bah ouais.
Et je prenais des médicaments, et j'ai décidé de boire de l'alcool. Parce que rien de mieux quand on prend des médicaments et qu'on s'ennuie. Donc, j'étais très bourrée. J'ai fini par m'endormir dans le salon. Les gens sont arrivés. Ils ont fait une soirée. On a joué au loup-garou. C'était hyper sympa. Et je me suis endormie sur le canapé. Donc, au milieu de la nuit, je me réveille. je monte dans ma chambre et je les surprends dans ma chambre avec une autre fille.
C'est pas vrai.
Ouais.
C'était merveilleux.
Oh non, mais t'étais à côté.
Mais c'était ma chambre.
C'était ta chambre.
Il y avait 50 millions de chambres, mec. Tu prends la mienne.
Horrible, mais le signe que t'attendais, mais mon Dieu, tu mais l'as là, eu,
c'était...
quoi.
Ah, c'était un bon signe. Franchement, aujourd'hui, je remercie. Parce que sinon, j'aurais jamais réussi à me détacher de lui.
Comment t'as réagi sur le moment?
Sur le moment, le truc bien de... J'incite personne à prendre de l'alcool et ni de la drogue. Mais le truc bien de mélanger les deux, c'est que j'étais dans un état second. Et j'ai regardé, j'ai dit, s'il vous plaît, j'aimerais dormir.
Oh, ouais, mais t'étais sous le choc, quoi.
Oui, j'étais dans un état... Voilà, j'étais pas moi-même, c'était...
Mais eux, t'avais vu arriver?
Oui, ils s'habillaient.
Non, mais c'est comme dans les films. Enfin,
ah, c'était exactement comme dans les films. Mon exactement. Dieu. Des fois, je vois mes psys, je dis, est-ce que je n'ai pas inventé ça dans ma tête? Parce que c'est tellement rocambolesque que je ne crois pas. Quoi. C'est tellement... Mais oui. Donc, le lendemain, la fille est venue me voir pour me dire, ouais, en fait, il m'a dit que vous n'étiez plus ensemble depuis un moment. Je voulais savoir si tout va bien. Et je l'ai regardée et je fais, ah d'accord, il a dit ça. Oui, oui, non, tout va bien, t'inquiète pas. Parce qu'après, j'ai dit, elle est au courant de rien.
Bien sûr.
Elle ne savait rien. Oh, elle se fait draguer pour un mec hyper relou. Elle tombe dans le panneau. Moi, j'ai rien à l'en vouloir.
C'était pas quelqu'un, du coup, de votre groupe d'amis?
Non, c'était une copine qui faisait la sassa avec, qui l'a invitée.
OK.
Et il m'avait dit qu'il l'avait invitée la veille. Il a dit, ah, en fait, elle arrive. Non, 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 non. Et je savais rien, quoi. En sachant que quand j'ai eu l'accident de genou, c'est lui qui m'a amenée au secours, c'est lui qui a passé toute la journée à s'occuper de moi, mais vraiment comme si c'était mon amoureux, à me faire des bisous, des câlins, à me faire de la soupe, à me donner à boire, et le lendemain, bing! C'était vraiment une relation comme ça. Tu pouvais passer une journée merveilleuse, et le lendemain, tu prenais une grosse claque.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous êtes restée là-bas, t'es rentrée?
Oui, on était coincés parce qu'on n'avait que deux voitures pour tout le monde. La gare la plus proche était à 2 heures en voiture.
Tu lui en as parlé à lui, du coup? Parce que tu en as parlé avec la fille
qui est venue voir. Il est venu me voir. Parce que, en fait, j'ai commencé à les fuir parce que j'étais dans un état où je ne pouvais pas pleurer. Parce que je ne voulais pas pleurer devant les gens. On était 20. Donc, je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Et je ne voulais pas parler. Tu sais, quand tu as une boule dans la gorge et tu dis, si je parle, je vais pleurer pendant 3 mois.
Ouais, ça explose, ouais.
Et c'était ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré pendant 3 mois.
Ouais.
Et il est venu me voir en pleurant. Et il m'a dit texto, j'ai fait ça pour notre bien.
C'est pas vrai.
Parce que si je ne te faisais pas ça, on n'arriverait jamais à se quitter.
Oh là là, un grand prince, quoi.
Ah oui, il est merveilleux. Et j'ai rien répondu. Et il pleurait, il pleurait. À ce moment-là, maintenant, je pense que j'ai évolué. Mais à l'époque, je disais, je ne croirais jamais un homme qui pleure. Moi, un homme qui pleure, c'est un menteur, c'est un faux. Il pleure, ça y est, c'est fini, je ne veux plus. Donc, quand on est rentré, il y avait deux voitures. Il y avait une voiture qui venait à Paris et une voiture qui allait à Versailles. Donc, il habitait à Paris. Je dis, il va à Paris. Il ne vient pas dans ma voiture. Il a demandé de venir dans la voiture de Versailles. Donc, il a dû changer avec une autre personne qui allait dans la voiture à Paris. Et j'étais là, non, mais non. Mais je ne pouvais rien dire. Ouais. Parce que c'était la voiture de son cousin. Il conduisait. Bref, je ne me rappelle plus très bien. Donc, j'étais dans la voiture et je me retenais, tu sais, pour ne pas pleurer. Tout le voyage. Et lui, il m'envoyait des textos. « Ah, ça va, il faut qu'on parle. J'espère que quand on arrive chez mes parents, tu partiras pas tout de suite, il faut qu'on discute. » Et moi, je ne lui répondais même pas. Donc, j'ai éteint mon portable. On est arrivé chez ses parents. Donc, j'ai donné l'équipement de ski à sa mère. Je lui ai fait un câlin. Je dis « Bon, je suis désolée, je ne peux pas rester, je vais chez moi. » Heureusement, j'avais chez moi.
Oui.
Et elle dit, ah, tu restes pas dîner, mais dors ici, tu iras demain. Je fais, non, non, j'ai besoin de rentrer vraiment. Et je suis partie en courant, mais comme une voleuse.
Ouais.
J'ai tenu tout le trajet de bus, j'arrive chez moi, je ferme la porte de ma chambre, et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et quand je te dis, j'ai pleuré 3 mois, c'est j'ai pleuré 3 mois, sans arrêt. je faisais que pleurer, regarder Friends, appeler mes parents par Skype et manger des yaourts à la laitière. Le petit...
Très précis.
Très précis.
Tu t'en rappelles très bien.
C'était un parfum qui n'existe plus. C'était,
ah, okay. C'était tant mieux.
Coco brûlé.
Tant mieux, ça pourrait te rappeler des mauvais souvenirs.
Oui. Tu vois. Mais j'ai mangé que ça.
T'as pleuré pendant 3 mois, t'en as parlé tout de suite à ta famille, t'as coupé les ponts avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai éteint mon portable, donc je ne répondais plus. J'ai parlé à ma famille, mais je ne pouvais pas tout dire à ma famille, ouais. Parce que comme ils étaient loin, donc j'ai essayé de ne pas pleurer, mais j'ai pleuré et je disais on a cassé. Et ma mère, elle dit ouais, mais ma mère, elle ne voulait pas rentrer dans les détails de pourquoi on a cassé, comment et tout. Elle dit mais c'est pas grave, pourquoi t'es comme ça, arrête. Et en fait, au bout d'un mois, sa mère à lui est venue chez moi.
Ok.
Et elle est rentrée, mais en panique. Raka, pourquoi tu réponds pas à ton portable? Je m'inquiète, ça fait un mois que j'ai pas de nouvelles de toi, comment tu fais ça? Et je l'ai rassurée et elle dit, tu t'es disputée avec lui? Et je fais, oui, ça, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de lui parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien? Mais je vais lui parler. Et je fais, non, vous inquiétez pas. Parce que c'est hyper compliqué, tu vois, parce que je la voyais un peu comme ma mère en France. J'ai toujours adoré ses frères et sœurs, j'avais une relation hyper bien avec eux. Tu vois, c'était un peu compliqué de détacher tout ça. Et donc, elle m'a respectée. Elle savait, elle me disait, mais je suis toujours là pour toi, si tu as besoin. Donc, après, j'ai continué les 2 mois. Un jour, donc elle m'a dit, allume ton portable et quand je t'appelle, tu me réponds.
Ok.
Je fais ok. Et un jour, je crois, au bout de 2 mois, quand je commençais à aller mieux, elle m'a appelée, mais elle m'appelait régulièrement, donc je parlais avec elle. Mais un jour, elle m'a appelé son portable et en fait, c'était lui. Qui avait pris le portable de sa mère pour me parler.
Parce que lui, tu voyais qu'il essayait de te joindre, t'envoyer des messages,
j'avais mis bloqué direct, j'ai dit ne pas répondre. Ouais. Voilà. Je ne répondais pas, il fallait vraiment que je coupe.
Ouais.
Parce qu'il avait une façon de... C'est comme une araignée, ouais, ça t'envoûte et tu ne peux pas perdre pied si tu es un moment comme ça.
Okay.
Et il voulait me voir, parce qu'en fait, la fille qu'il a commencé à sortir ensemble au ski, elle l'a quittée.
Ah, parce qu'ils sont quand même vraiment
sortis
ensemble.
Oui, ils sont restés ensemble un moment. En fait, il m'a appelé parce qu'elle l'a quitté. J'adore parce qu'il m'a dit... Elle m'a quitté parce qu'elle dit que je m'habille mal.
N'importe quoi.
Ah, le karma. Karma is a bitch. Ouais. Et donc, j'ai accepté de le voir. Parce que je voulais faire un test de voir comment je me sentais.
Oui, et toi, tu te sentais quand même mieux. Ça faisait 3 mois. Tu avais l'impression de reprendre un peu pied.
Oui. Et on s'est donné rendez-vous au château de Versailles.
Okay.
Et quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose. Comme tu vois, t'as le cœur qui bat, t'as ta pression qui descend. Quand même, j'étais très, très amoureuse de lui. Je l'avais beaucoup aimé. Mais j'ai commencé à voir ses défauts.
Que tu ne voyais pas avant.
Que je ne voyais pas.
Pas pendant les 4 ans.
Ouais.
Ah ouais.
Et j'ai commencé à me dire dans ma tête, mais en fait, t'es minable. Mais en fait, il n'y a pas de sens pourquoi je suis amoureuse de toi. T'es attirée que par le physique. Le physique, dans 20 ans, c'est fini. Quand je serai vieille, toute molle, pleine de rides, c'est quoi? Parce que mes parents, ils m'ont toujours dit, marie-toi avec quelqu'un qui t'aime discuter, que tu peux discuter pendant des heures et des heures. Parce qu'il va arriver un moment où vous ne ferez que ça. Ouais. Que je dis, ok. Et quelqu'un qui a comme ça sur le physique, c'est...
Ouais.
Et donc, j'ai commencé, j'ai décidé que je ne voulais plus aucun mec dans ma vie.
Ouais. Et là, tu lui as vraiment dit, du coup, à ce moment-là, quand même, pour terminer, c'est bon, t'es minable, c'est fini.
Voilà, je ne veux plus de contact avec toi.
Il a pleuré?
Non, il n'a pas pleuré. Mais il m'a pris dans les bras et il a dit... qui m'aimait et pourquoi on a fini comme ça. Non, tu sais, le mec essaie de se mettre en victime. Il a rien fait, le pauvre chou. Oh mon Dieu. Merde. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je m'aime comme j'aimerais qu'il y ait un garçon ou une fille m'aime. Donc, je n'allais plus attendre que quelqu'un m'invite pour aller au resto et qu'il m'offre des fleurs. j'allais m'offrir des restos ouais. et j'allais m'acheter des fleurs. Et j'ai commencé à faire ça.
Tu avais une grosse perte de confiance en toi avec toute cette histoire.
Ah oui, je me trouvais moche, je me trouvais stupide, pas intelligente, que je ne méritais rien.
Ouais.
Donc, il fallait d'abord que je m'aime.
Et comment tu as trouvé la force et l'idée de faire ça?
Parce que justement, il m'avait tellement miné le moral. Il m'avait plein de fois, il m'a dit, mais personne ne va vouloir sortir avec toi. Il n'y a que moi qui t'aime. Il n'y a que moi qui t'accepte comme tu es. Donc, si tu n'as qu'une personne comme ça, et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que mes parents, à chaque fois qu'on se parlait, la seule chose qu'ils me disaient, on t'aime. On t'aime, tu veux rentrer, rentre. T'as chez toi ici, tout est à toi ici.
Mais oui, d'ailleurs, t'as pas voulu rentrer après tout ça?
Non, j'ai voulu rentrer parce que j'allais finir mes études en septembre.
Tu faisais quoi d'ailleurs comme
études? Administration économique et sociale.
Ok.
Donc j'allais finir mes études. Et mes parents, ils me disaient tout le temps, mais rentre, c'est pas grave, tu reprends tes études ici. Mais on t'aime, t'as pas besoin de vivre ça. Pourquoi tu vis ça? Et moi, je voulais rester. Je ne sais pas si je voulais rester. Je ne sais pas dans quel état j'étais. Mais je voulais finir ce que j'avais commencé.
Oui, en même temps, c'était tellement énorme, j'imagine, pour toi, de venir en France, d'apprendre le français, de faire ses études. Enfin, tu ne pouvais pas peut-être tout lâcher comme ça d'un coup. Il fallait que tu continues dans cette voie-là que tu avais.
Et tu vois, je suis devenue adulte en France.
Ouais.
Parce qu'au Brésil, j'étais étudiante, j'ai travaillé, mais c'était pour payer ma fac, je vivais chez mes parents, j'avais vraiment la belle vie, je sortais tous les week-ends. En France, j'ai commencé, ma première déclaration d'impôt, c'était en France. Et donc, j'ai commencé à être indépendante, et donc à partir du moment, tu t'imagines mal de revenir chez tes parents. Et après, tous mes amis, ils avaient continué leur vie, donc il fallait que je rentre dans leur vie à nouveau. Alors qu'en France, j'avais plein d'amis. J'avais créé un réseau d'amis à part. Et j'ai réussi à voler quelques amis à lui. Je ne l'ai pas dit de choisir leur camp. Ça s'est fait naturellement.
Donc après tout ça, tu t'es dit, je vais faire du bien. Je vais essayer de m'aimer et je ne vais pas attendre quoi que ce soit des hommes.
Voilà, c'est ça. J'ai dit, je ne vais plus attendre de quelqu'un. C'est que je peux donner à moi-même. Et en fait, ça a commencé d'une mauvaise phrase, parce que je me disais, personne ne va jamais m'aimer. Personne ne voudra se marier avec moi. Qui va vouloir rester toute sa vie avec moi? Je ne fais pas du physique, je ne correspond pas aux normes de beauté du Brésil, je ne correspond pas aux normes de beauté de la France, je n'ai nulle part où y aller. Donc, j'ai qu'à à me prendre en main et m'aimer moi-même. Je ne veux plus attendre que Disney a pourri mon enfance, je ne veux plus attendre le chevalier dans son cheval venir me sauver. Je vais prendre l'épée et me sauver moi-même. Grosse croix sur Disney. Et là, j'ai commencé à sortir, à me faire plaisir. J'étais dans le rouge, mon banquier m'appelait tous les jours. On est presque devenu intime. Mais je me faisais plaisir. Et j'ai commencé à faire des soirées foro à Paris, à prendre des liens avec d'autres copines que j'avais un peu, que je m'étais un peu éloignée. Donc, on a resserré les liens et je sortais à Paris. Je venais de Versailles à Paris faire des soirées foro le lundi.
C'est quoi foro?
C'est une danse brésilienne de chez moi, typique. On danse très collé serré. C'est très bien.
Ok.
Et à ce moment-là, j'ai eu l'espoir de ma vie. J'ai raconté à mes petits-enfants. J'ai sorti avec un mannequin. De Calvin Klein. Même mes copines se pensaient comme ça. Elles disaient, ah, tu es sortie avec lui. On avait des affiches de lui aux Galeries Lafayette.
Ah, c'était vraiment un mannequin. Vraiment, ah, je croyais que c'était genre une image. Que
non, non, il était vraiment le mannequin.
Donc tu le voyais dans la rue, dans le métro et tout.
Oui, tu le voyais dans les affiches.
Et c'était ton mec.
Oui.
Bon, trop bien.
Il n'était pas. La conversation n'était pas.
Oui, mais sur le moment, du coup, contrairement c'était à ce qu'ils disaient tes parents, voilà, ça n'allait pas être ton mari. C'était
non, ça
n'allait
pas être mon mari, mais c'était merveilleux.
Il n'y avait pas besoin de la conversation.
Mon estime de moi, elle allait au plafond, mais à l'estratosphère. C'était... Mais moi, je me pensais, j'étais là. On est rentré, je me souviens, ce jour-là, on est rentré à 2h du matin, on marchait à Paris. Paris était vide, c'était trop beau.
Ouais.
Et moi et mes copines, on s'en était là. J'ai embrassé un mannequin. Elle dit, t'as embrassé un mannequin? Mon Dieu, je crois pas, t'as embrassé un mannequin. Oui, j'ai embrassé un mannequin.
Mais tu l'as revu, ce gars, ou c'était juste comme ça?
Je crois qu'on s'est revu 3 fois.
Quand même, ouais, ok.
Ouais. Mais ça a pas...
Oui.
Il y a un moment où j'ai presque eu envie de lui dire, tu veux pas venir une soirée avec moi, juste pour que je passe devant mon ex? Juste tout ça, on n'a pas besoin de se marier, de s'engager pour la vie. Je veux juste passer devant mon ex avec toi. Parce qu'en plus, mon ex, il était un peu chauve là du côté. Tu sais, il avait les entrées.
Ouais.
Et donc, je me dis, et ce mec-là, il avait plein de cheveux.
Bon, il n'y a pas que ça qui l'aurait vexé, certainement. Quoi.
Oui, pas que les cheveux, mais. Ouais. Non, mais c'était. Ah, c'était quelque chose.
Et ça t'a fait du coup beaucoup de bien, ça t'a redonné confiance.
Énormément du bien.
Ouais.
Énormément du bien.
Ça a changé quoi pour tes relations d'après de rencontrer ce mec?
En fait, je me suis retrouvée comme j'étais avant au Brésil. Je ne me questionnais plus mon physique. Je ne me disais plus. Au Brésil, on a une expression. Pour chaque casserole, il y a toujours un couvercle. Donc, je dis, je vais trouver mon couvercle. Et si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Je me fais la conversation à moi-même très bien. Et donc, je suis sortie avec ce mannequin. Et 2 mois après, j'ai rencontré mon mari.
Ouais.
Et c'était le premier mec que j'ai dragué
de
ma vie.
Ouais. Trop bien.
Mais il est tellement beau.
il n'est pas mannequin à petite culotte, mais...
Oh, mais il est magnifique.
Et alors, tu l'as dragué, c'est-à-dire que tu ne l'as pas calculé, comme tu disais tout à l'heure?
Au début, je ne l'ai pas calculé, mais j'étais avec une concentration d'alcool dans le sang un peu élevée.
Ouais.
Et j'étais dans une soirée. Je devais faire une nuit blanche au musée de Paris.
Ouais.
Mais mes copains m'ont lâché. Donc, j'avais un ami à moi qu'on a passé toute l'après-midi ensemble, qui allait faire une soirée entre potes.
Ok.
Et il m'a dit, mais tes copains, ils viendront jamais, viens avec moi. Et je fais, mais vous êtes qui des garçons?
Heureusement qu'il t'a dit ça, du coup, c'est là où tu l'as rencontré. Trop bien.
J'arrive à la soirée, il y avait qui des garçons.
Ouais.
Et donc, un garçon, plein de garçons, une fille, qu'est-ce qui arrive? On te paye ton tour.
Oui. Donc, on a dû bien te payer ton tour, là.
Ah oui. Je me souviens qu'il y avait une boisson qu'on dirait un aquarium. C'était bleu, je me rappelle pas de ce que c'était, mais c'était délicieux. Et donc, j'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on est allé au resto, parce qu'on avait faim, je crois que c'était à 10 heures. Non, c'était même pas, c'était à 8 heures, 9 heures, je me souviens. Là, mon mari est arrivé. Et quand je l'ai vu, je vais dire un truc. J'aime les grandes fesses.
T'aimes quoi?
Les gros popotins.
Ok.
Et lui, il a un beau popotin.
Ok, tu l'as vu tout de suite.
Ah, tout de suite. En fait, il s'est tourné pour dire bonjour à un gars. Ouais. Et j'ai vu le petit mont. Je fais, oh, bonjour. Ah, toi, t'es à moi. Et en fait, il a dit bonjour à tout le monde. Je lui ai dit bonjour. Et j'ai fait comme ça, un signe pour qu'il s'assoie à côté de moi.
Ah ouais, ok.
Donc, il est venu s'asseoir. Il pensait juste, elle est brésilienne, voilà. Lui, le seul que j'ai dragué, pensait que moi, j'étais comme ça, amicale, parce que j'étais
brésilienne. Oui, il avait compris, lui. Okay. Oui. Ouais, ouais.
Et donc, tous les garçons mettaient leur numéro de téléphone sur mon portable. Et lui, il ne me calculait pas.
OK.
J'étais là, hein? Pourquoi? Non! Donc, ces jours-là, j'ai un peu montré...
Quand même.
Que je voulais, tu vois. J'ai demandé s'il voulait partager un dessert avec moi. Mais il arrivait un peu tard, donc tout le monde partait. Parce que moi et mon pote, on rentrait à Versailles. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait le lendemain. Il fallait qu'il parte tôt. On est parti, je crois, à minuit, un truc comme ça.
OK.
Et donc, je lui dis, tu viens vendredi prochain? Il était là, oh, je ne sais pas, j'ai un ami qui rentre d'Angleterre. Parce que, en fait, mon pote... qui me l'a présenté, mon mari. C'était la première personne que mon ex m'avait présentée quand je suis arrivée en France.
D'accord.
Et en fait, il m'a présentée parce que cet ami-là, Jamal, il était en Angleterre.
OK.
pour faire ses études avec Ludo.
Ok, ton mari.
Mon mari. Ouais. Du coup, quand j'ai rencontré Jamal en France, il connaissait déjà Ludo, mais Ludo était en Angleterre.
Ok, d'accord.
Et donc, et moi et Jamal, on est restés très amis parce que j'ai pleuré beaucoup dans ses bras.
Ouais.
Et Jamal, il connaissait un peu l'histoire.
L'histoire, ouais.
Ouais. Et lui, il était choqué. En fait, tous ses amis, ceux à qui j'ai raconté l'histoire, ils disaient, mais non, c'est pas lui, il n'est pas comme ça.
Hein. Ils n'en savaient rien.
Oui, parce qu'il était hyper amical, hyper sympa, hyper gentil. C'était que moi qui voyais son côté dark. Mmh. Et donc, il m'a présenté Ludo. Et moi, j'ai présenté ma coloc. Et aujourd'hui, ils sont mariés aussi.
Okay. Tu as présenté la coloc à pote Jamal.
Voilà, j'ai présenté ma coloc Lise. À mon pote Jamal. Et maintenant, ils sont mariés, nos deux petits.
Ouais.
Et Jamal m'a présenté Ludo.
Et maintenant, vous êtes mariés, vous avez deux petits.
Voilà. Et donc, je dis à Ludo, ah, mais viens, vendredi prochain, on va se voir et tout. Et il est venu. Mmh. Sauf qu'il est venu, mais il est resté même pas une heure parce qu'il avait un ami à aller chercher à l'aéroport.
Ouais.
Et je me souviens, je l'ai dit encore, que j'ai arrivé à lui, j'ai dit, tu veux me donner ton numéro de téléphone? Il m'a regardé, si tu veux. Comme ça, le mec.
Pas plus que ça, quoi.
Ouais. Donc, il me donne son numéro de téléphone. J'attends qu'il demande le mien. Il dit rien.
OK.
Et là, comme une conne, je le regarde, je fais, tu veux le mien? Et il me fait, oui, si tu veux. Le mec blasé.
Ouais.
Ouais, il se fait draguer tous les jours. Et donc, on a commencé à se parler au téléphone. Et après, on a eu un date. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je n'étais plus dans l'optique je veux me marier.
Ouais.
Je veux juste profiter.
Mm.
Et on a commencé à se connaître. Il est hyper intelligent. Ah, il est parfait. Ouais, non, je suis trop amoureuse. Quand je parle à ma psy, je dis à ma psy, non, mais il faut m'aider là parce que je l'aime trop, c'est pas bien.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et que vous êtes mariés?
14 ans.
14 ans et tu parles comme ça de lui encore.
Mais tu vois, c'est pas normal.
c'est trop bien, tu rigoles.
Mais c'est ça aussi que j'ai appris. Comme j'ai fait cet exercice de pendant 3 mois, m'aimer et me traiter comme je veux être traitée, je dis souvent à mon mari quand je suis triste, par exemple, là j'ai le blues de l'hiver, parce que ça me déprime. Et il s'inquiète, il dit, mais pourquoi t'es triste, dis-moi. Et je dis, mais ne t'inquiète pas, parce que t'es pas responsable de mon bonheur. Tu fais partie de ce qui peut me rendre heureuse, mais t'en es pas responsable.
Ouais.
C'est moi responsable de ce que j'ai fait avec moi. Et je pense que ça dure autant de temps, mon amour pour lui, parce que il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça ne va pas, on s'y dispute, on ne se comprend pas. Mais j'essaie toujours de comprendre parce que je sais qu'on a 50-50. Donc, je sais que s'il y a une partie qui... Par exemple, il dit quelque chose, j'ai mal pris, je vais bouder. Et après, je me dis, mais pourquoi j'ai boudé? Et j'ai creusé, j'ai creusé. Ça, c'est les intermittences de psy qui m'ont aidée.
Pourquoi?
Parce qu'à chaque fois que je vois un psy... Quand je change de psy, il faut que je revienne à toute l'histoire. Et quand tu reviens dans ton histoire, tu revois la différemment.
Oui, tu vois ça différemment.
Ouais, parce que tu as évolué, tu as fait d'autres choses, tu as pris de l'âge et tu as plus d'expérience et tu vois les expériences des autres et tu vois différemment. Donc, des fois, je m'écoute pour me dire pourquoi je sens ça. Et après, je lui dis. Et aussi, j'ai fait la communication non violente, qui Lisou, ma meilleure pote, est à fond. Et c'est beaucoup cet exercice. Quand il me dit quelque chose, je suis blessée. Je ne dis pas, ouais, t'es méchant avec moi. Je dis, ça m'a blessée.
Oui.
Je ne dis pas qu'il est méchant, qu'il veut. Parce que je sais qu'il n'a jamais cette envie de blesser.
Ouais.
C'est parce qu'il a ses propres blessures. Et des fois, on arrive à l'instant. On arrive à cet instant où c'est ton instinct qui prend le dessus. Donc, quand tu es en colère, tu ne vas pas être rationnel. Ça va sortir tes entrailles. Donc, des fois, tes entrailles, l'un des blessures, tu as vécu des choses et ça sort. Et ça sort sur la première chose qui tombe, la première personne qui t'est devant. Et Je ne dis pas que je suis parfaite, parce que j'ai eu des problèmes dans ma famille, mais même tous les problèmes que j'ai eu dans ma famille, il y avait tellement d'amour qui t'a cette envie de mettre l'amour d'abord et qu'après, tu mets les autres choses. Et mon mari, il avait des blessures parce qu'il a... Quand je l'ai connu, il avait un manque de confiance en lui. Il ne voyait pas à quel point il était beau. Et maintenant, quand je dis, mais t'es magnifique, il fait, je sais. Je fais 14 ans de travail, hein, maintenant t'as les chevilles bien comme il faut. Mais c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. Parce qu'il a compris que mon système, c'est ne pas parler de mon physique, mais de parler des qualités que j'ai.
Ouais.
Donc, il sait qu'il va plus me toucher s'il dit, par exemple, j'aime bien comme t'es avec les enfants, ou quand il dit aux gens, ah, elle ne parle pas pour le mal, elle va parler pour ton bien. Du coup, je sais que c'est plus l'écoute qui m'écoute. Et c'est ça, construire une relation. Je pense aussi que le truc avec mon ex, c'est que j'attendais tout de lui. Je mettais mon bonheur dans sa main, j'étais détruite. Maintenant, je ne mets pas mon bonheur dans sa main à mon mari, ça ne dépend pas de lui. On construit notre relation tous les deux. C'est pour ça aussi que moi, je n'ai jamais aimé les gens qui disent « Ah, mais quand tu deviens maman, que tu vois ton fils, c'est l'amour inconditionnel direct. » Non, c'est du people, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Si ton bébé sort comme un savon et qu'il sort tout beau, tout mignon, t'as éternué, il est sorti, là, ça peut être l'amour instantané.
Ouais.
Mais moi, c'était pas ça.
Ouais.
Moi, mon fils, mon premier fils, il y avait ma médecin traitante qui m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. Elle m'a dit, il t'a fait devenir mère. C'était pas mère avant. Et ça m'a touchée parce que tous les gens croient que parce qu'on est femme, quand on devient une mère, on a le manuel.
Ouais.
On sait comment faire, comment prendre. Ah, il pleure, tiens. Alors que moi, je ne sais pas plus que toi, il pleure, mais allez, on se pose la question tous les deux. Pourquoi il pleure? Et cette relation avec mon fils, elle s'est construite. Et c'est tant que, quand je parlais avec ma psy, que je me sentais mal d'avoir eu une dépression postpartum, parce que je culpabilisais. Elle m'a dit, raconte-lui, raconte à ton fils ta dépression, ce que vous avez vécu ensemble, parce que comme ça, il se sent parti. Et quand j'ai raconté à mon fils, il a pleuré.
Il avait quel âge? Il était tout petit?
Quand j'ai eu la dépression, quand je l'ai raconté?
Non, quand tu lui as raconté.
Ah, je l'ai raconté il y a 6 mois.
Et il a 9-10 ans?
9 ans.
9 ans.
Il a pleuré, il m'a pris dans les bras et il a dit... « Oh, maman, je t'aime, je suis triste que t'as souffert, mais tu ne souffres plus.
»
Et ça m'a... Ça m'a... Et je dis, la relation avec mon fils, je l'aime, je peux mourir pour lui, mais ça s'est construit, petit à petit. Parce que des fois, je me demande comment tu peux aimer quelqu'un qui te réveille tous les 2 heures. Parce que c'est la torture. En fait, il veut ta mort. Mais tu l'aimes. C'est une relation abusive au début. Et après, tu fais en sorte que ça devienne plus égal. Mais après, mon deuxième, ça s'est fait plus tout facile.
Ouais.
Tout roulé parce qu'il y avait le premier. Donc après, je me dis... C'est pareil, j'ai eu une relation pourrie, horrible, qui a failli me briser. Et maintenant, j'ai appris à construire une solide. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, elle n'est pas parfaite.
Oui.
Les gens, les perfections, ça n'existe pas. Mais elle est bien. Et on se complète, et on est amis, on rigole ensemble. J'adore rigoler avec lui, il a plein de blagues débiles. Mais je suis morte de rire, je peux pleurer de rire avec lui. En plus, il est beau. C'est le bonus, il est trop canon.
Est-ce que tu as eu le mariage dont tu rêvais?
Oui. Mais c'est ça aussi qui est hyper bizarre. J'ai eu le mariage que je voulais, parce que lui, il n'est pas catho, il est athée.
Okay.
Mais j'ai voulu un mariage à l'église. J'ai mis plein de conditions. Qu'est-ce que j'étais chiante. J'ai mis plein de conditions.
Tu savais ce que tu voulais.
Ouais. Il a accepté.
Ouais.
Et en fait, le jour de notre mariage à l'église, que j'avais choisi la robe, tout l'église, tout parfait, tout le monde au Brésil, le buffet, blablabla.
C'était au Brésil?
C'était au Brésil.
Trop bien.
Ouais. C'était trop bien. Et en fait, quand je suis arrivée à l'église, que j'étais à l'hôtel avec lui, j'ai eu ce sentiment que tout le truc à côté, c'était pas important. En fait, ce qui était important, c'est qu'il était là, qu'il tenait maman, qu'on pleurait et qu'il s'en jouerait de s'aimer toute notre vie. Et donc après, il y a eu des problèmes. Hein. Le buffet, il pleuvait, les toilettes étaient sales, les cocktails s'en finissaient plus tôt.
Ouais.
Mais c'était rien parce que j'étais liée à lui à vie. Et des fois, je lui dis qu'il a signé deux fois, que je ne le lâcherai jamais.
Pourquoi deux fois?
Parce qu'on s'est mariés au civil et au cato. Et du coup, il a signé deux fois. Je lui dis, t'as vu? Et en plus, on s'est mariés au civil. 3 ans avant le religieux.
Ok.
Et je dis, t'as 3 ans pour réfléchir, t'as quand même signé, donc c'est mort. Tu peux plus revenir en arrière. C'est mon otage.
Est-ce que tu crois, du coup, que vous êtes mariés, donc l'idée, c'est d'être ensemble toute une vie. Est-ce que tu y crois profondément à ça?
Ah, je crois profondément.
Ouais.
Tu fais des sacrifices.
Ouais.
Parce que tu peux pas tout avoir. Tu ne peux pas faire la fête tout le temps et avoir des enfants et boire jusqu'à 6 heures du matin et reprendre le boulot à 8 heures. Non, et à un moment, ça n'arrive plus. C'est triste, mais c'est vrai. Et donc, j'ai fait des compromis. Et plein de fois, j'ai dit, j'aimerais être aimée comme mes parents eux-mêmes, comme si j'étais le dernier coca du désert, le dernier biscuit du paquet, la merveille du monde. J'aimerais être aimée par lui comme ça. Mais ce n'est pas à lui de m'aimer comme ça. C'est à moi de m'aimer comme ça. Et lui, il me voit vraiment comme je suis. Il sait, mais des fois, il sait quand j'y râle. Et je déteste qu'il râle. Je déteste les gens qui râlent, mais j'y râle. Mais je râlais pas avant de venir en France. Je ne sais pas comment revenir en arrière.
T'as chopé le truc français,
c'est oui, mort. Oui, je suis pas trop bien intégrée.
Bah ouais, t'as bossé pour t'intégrer, voilà.
Hein. Ah oui,
t'as plus le choix.
J'ai fait trop. Oui, mais il y a des choses. J'ai choisi mes combats. C'est comme avec les enfants, tu choisis tes priorités. C'est ok, tu veux qu'ils mangent bio tout le temps, mais il y a un jour, t'es fatigué, t'as juste envie de faire des pâtes avec du fromage. Bon, on fait des pâtes avec le fromage. Et c'est comme pour lui. Je sais, par exemple, que moi, j'adore faire des cadeaux. Et moi, c'est tout le sentiment derrière les cadeaux. C'est de me dire que je passais du temps à penser à cette personne et à imaginer sa tête.
Oui, je vois bien.
Voilà.
J'adore.
J'adore ça. Lui, il déteste. Lui, il déteste les cadeaux. Il déteste faire des cadeaux. Il déteste recevoir des cadeaux. Lui, quand je lui fais des cadeaux, je sais sa réaction. Il va avoir une tête dégoûtée. Il a dit, mais non, j'aime pas ça. Et il va le mettre 3 mois après. Et ça, des fois, ça me manque. Parce que des fois, je me dis, oh, j'aimerais quand même qu'il prenne du temps à penser à moi.
Mais c'est fait autrement.
Oui, voilà. Il m'aime différemment. Il n'aime pas de la même façon que moi, j'aime.
Ouais.
Donc, je me fais des cadeaux.
Oui, au final, c'est ça l'essentiel, voilà. C'est que tu les as, les cadeaux.
Oui, je pense à moi.
Tu les fais.
Je dis, ah, elle va être très contente d'avoir ça. Oui.
Comment tu vois maintenant, avec le recul, je t'avance juste un peu le micro, toute la relation là, que tu construis avec ton mari depuis 14 ans et celle que tu as vécue avant qui était vraiment très destructrice, qu'est-ce que ça te fait maintenant de savoir que tu es dans cette relation après avoir eu cette première relation qui était très, très compliquée pour toi, quoi, et qui t'a mis un peu sous terre?
Je pense que j'ai grandi. Parce qu'à l'époque de ma relation abusive, on va dire, je crois que je venais d'une famille qui me protégeait beaucoup, ouais, qui m'aimait beaucoup. Donc, j'étais une petite fille gâtée. Et je voulais dépendre de mon ex comme je dépendais émotionnellement de mes parents. Parce que mes parents, ils m'ont toujours dit, on sera toujours là pour toi. Donc, je ne me suis jamais posé la question s'ils ne seraient pas là.
Ouais.
Et avec ce ex, j'étais confrontée à « ils ne sont pas là ». Et lui, en fait, c'est comme si j'étais... Quand je me regarde, si je peux mettre dans une image, c'est comme si j'ai tombé dans un trou sans fond. Et que je ne savais pas s'il allait y avoir quelque chose en bas pour m'attraper. Et je n'avais rien à me tenir. C'était ça, cette relation-là. Mmh. J'étais dans le vide. De temps en temps, j'avais une branche qui me tenait, mais il lâchait après. Mmh. Et avec mon mari, j'ai le sentiment, je ne dépends pas de lui, il ne dépend pas de moi. Et on marche ensemble. Mmh. Et on n'est pas obnubliés un par l'autre, en train de se regarder, ouais. Oh, comment c'est... Mais on a un objectif et on marche ensemble, côte à côte. Et on se soutient. Et c'est mon compagnon. C'est comme... c'est quelqu'un... On fait une route ensemble. Après, je me dis, si un jour, il veut partir, je ne vais pas le retenir. Je vais faire comme le petit prince. S'il m'aime, il revient. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il ne m'aimait pas. Et on passe toujours dans la vie de quelqu'un pour lui apprendre quelque chose, pour laisser quelque chose. Donc, si à un moment, il décide de partir, c'est que tout ce qu'il avait à me donner, que j'avais à lui donner, c'est fait. On n'a plus rien à se donner. Mais là, j'ai dit, hein, franchement, je ne peux pas vivre sans lui. Mais si ça arrive, je peux.
Ouais, il les peut. Épaules pour. Ouais.
Voilà. Parce qu'il faut, il faut qu'on s'aime plus qu'on aime les autres. Parce que si on ne s'aime pas, on ne sait pas aimer les autres. On ne va pas le savoir le faire. On ne va pas bien faire. On va faire maladroitement ou on va blesser l'autre inutilement. Mais si on s'aime, qu'on s'écoute, on va toujours dans le bon sens.
C'est bien que tu dises qu'on s'écoute parce que je trouve que parfois il y a une tendance à dire il faut absolument s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et c'est dur, tu vois, de recevoir ça quand toi tu dis bah c'est pas si simple quoi, de s'aimer soi-même.
C'est pas simple.
Mais je trouve qu'il y avait une tendance comme ça, tu vois, sur les réseaux, notamment sur Instagram et tout.
La positivité.
Aime-toi toi-même avant de machin. Bah ce serait bien d'avoir le mode d'emploi aussi, mais s'écouter, je trouve que c'est vachement juste ce que tu dis.
Ouais. Oui, mais c'est vide de dire aux gens. Moi aussi, plein de gens, quand j'étais dans ma relation bizarre, ils disaient mais il faut que tu t'aimes. Coco, c'est facile. Et en fait, j'ai travaillé dans les petites choses. Par exemple, m'amener au resto. C'est triste quand tu vas au resto et tu vois une fille manger toute seule.
C'est trop bien, tu rigoles.
Voilà.
Faut le faire. Mais trop bien.
Mais moi...
Aller au ciné toute seule et tout.
J'y suis allée au ciné toute seule.
J'adore.
La première fois, je me dis, non, mais c'est minable, je suis toute seule au cinéma. Et à la fin de la séance, j'appelais mon frère. Ouais. J'étais trop contente.
Bah
j'ai fait mon premier cinéma toute seule. Je suis trop forte.
Mais tu sais, c'est un truc que j'ai jamais compris. Parce que le ciné toute seule, c'est un de mes pur plaisir. Franchement, j'étais mais abasourdie quand on m'a dit, non mais attends, le ciné toute seule, je comprends pas, j'y arrive pas, je sais pas quoi. Le resto, je peux comprendre un peu à la limite, mais le ciné, t'es dans le noir, t'es bien, c'est ta pause, tu vois, genre, il y a personne pour moi, t'es toute seule à vivre ton truc. Et c'est trop bien, je conseille à tout le monde de faire ça, évidemment.
Ouais, non, mais je conçois que j'étais hyper fière de moi, mais moi, je suis très bavarde.
Ouais.
Et j'ai aimé m'amener des bonbons, ils partageaient, ils parlaient du film. Tout le monde déteste le cinéma avec moi parce que je fais des commentaires tout le temps.
Ouais,
j'ai
moi,
crie,
ça me
je pleure, voilà.
Moi, je me retournerais en mode...
Voilà. Non, en plus, j'étais allée voir un film d'horreur au cinéma toute seule.
Ah, mais chelou le choix.
Ah, voilà. Parce qu'en fait, on s'est marqué avec mon frère qui, au Brésil, le cinéma, à la même heure que moi,
regardait
le même film.
Ok. Donc, tu étais toute seule, mais avec quelqu'un de loin.
Voilà.
Ouais.
Et à la fin de la séance, on parlerait du film.
Trop
parce
bien.
Que j'aime bien échanger sur le film.
Ouais.
Et en fait, moi, je suis tellement chiante au cinéma. En fait, tu sais, dans les films d'horreur, t'as toujours la musique qui te prépare pour le moment. En fait, j'écris avant. Comme ça, ma décharge de stress descend et quand le truc arrive, j'ai plus peur.
Okay.
Ça, les gens, ils détestent. Parce que comme j'écris, ils ont peur et du coup, ils ratent la scène. C'est horrible. Ah, je suis pénible. Mais j'ai commencé par ça, petit à petit. Petit à petit, je me regarde pas dans le miroir en disant, oh, tu t'aimes, t'es merveilleuse.
Oui.
Non, je fais pas ça. Mais je faisais des petits plaisir, de ne pas me priver de... Et là, j'arrive aujourd'hui, à presque 40 ans, à dire « je m'aime ». Je m'aime parce que je ne peux pas... Je ne vais rien faire pour me blesser moi-même. Et c'est ça, s'écouter. Tu ne vas pas... C'est aussi les gens qui disent « Ah, il faut dire non, ça fait plaisir de dire non. » Oui, mais si tu dis non juste pour dire non,
oui.
Il faut que tu dises non parce que tu es sûre de toi, dans ton cœur, tu n'as pas envie. Ouais. Donc, tu n'as pas envie. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu sais dire non sans blesser l'autre personne.
Mm.
Tu sais amener la chose…
Oui, c'est ça, sans que l'autre se sente blessé. Ouais.
Oui. Mm. Mais c'est du travail.
Oui.
Ouais.
Trop bien. Merci beaucoup, Raquel. Est-ce qu'on a parlé? C'est quoi cette tête?
Parce que je parle trop.
Non, c'était très bien. Est-ce qu'on a parlé de tout ce que tu voulais concernant l'amour?
Oui. On a parlé de ma première relation.
Ouais.
On a parlé de ma deuxième qui est durable. Ouais. On a parlé de l'amour pour les enfants, ouais. Les bébés. Et de l'amour de soi.
Ouais.
Je pense que j'ai un gobelet.
C'était trop bien. Parfait. Merci beaucoup, Raquel.
Ah, merci à toi.
Je te verrai peut-être aussi. Je ne retournerai pas. Pas trop énervée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et merci beaucoup à Raquel pour son témoignage. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com avec amour en objet. Toutes les informations sont en description. Et si les épisodes vous plaisent, vous pouvez mettre des petites étoiles ou commentaires sur Apple Podcasts ou Spotify, ça me ferait très plaisir. On se retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.